temps de retrouver autour de 13h20 comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice avec aujourd'hui le directeur de la rédaction de France Culture, Frédéric Barrère, l'invité idée de la grande table, philosophe et penseur radical Alain Badiou, auteur de Lettres et l'événement en 88, dans la suite duquel paraîtra au printemps, début mai, une théorie axiomatique du sujet, chez Fayard, auteur également de plusieurs éloges de l'amour, du théâtre ou encore des mathématiques, et d'un savant Petrograd, Shanghai, les deux révolutions du XXe siècle, paru l'an passé à la Fabrique, entre retour sur un courant de pensée et analyse des échecs d'octobre 1917 en Russie et de la révolution culturelle chinoise. Alain Badiou revient dans le siècle présent, aujourd'hui, et tire les leçons de la contestation en cours. C'est dans un court essai intitulé « Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage » qui paraît chez Fayard. Il invite à élargir dans cet ouvrage notre regard au-delà de nos frontières. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Il faut d'abord peut-être commencer par nous expliquer ce titre inspiré d'un poème d'Évariste de Parny, un poète du 18e, mis en musique par Ravel. Qu'est-ce que cela signifie ? Méfiez-vous des Blancs, habitants du ripage ? À qui s'adresse-t-il ?
Eh bien, ça signifie tout simplement que les Blancs doivent constamment se rappeler que ils ont commis les grands crimes coloniaux pendant plusieurs siècles, et que ceci peut entraîner, a dû entraîner, de ci de là, une méfiance des Blancs. Parny lui-même était un Blanc, hein, tout à fait. C'était même un colon, en réalité. Il était d'une famille coloniale des Antilles, et il avait été horrifié, en réalité, par ce qu'il voyait, par ce qu'il saisissait dans la condition esclavagiste des Antilles de l'époque. Et il a écrit ce texte, c'était au fond un éloge de la résistance, tout simplement, qui était contre ceux qui se mettent à parler, dit le poème, de servitude et d'esclavage. Ceux-là, il faut en effet agir contre eux, se rebeller contre eux. Et je l'ai mis en exergue, en quelque sorte, de mon livre, ce titre, pour rappeler aussi à quel point les contradictions aujourd'hui sont des contradictions mondiales.
Un poème mis en musique par Ravel et chanté, là on entendait un extrait par Jesse Norman, Alain Badiou. C'est une charge anticolonialiste, ce « Méfiez-vous des Blancs » mis en mots par Évariste de Parny. Quel lien pour vous avec l'époque actuelle, quand vous parlez de contradictions aujourd'hui ?
L'époque actuelle, comme vous le savez, est marquée entre autres choses par la question considéré encore aujourd'hui comme fondamental par un très grand nombre de gens de ce pays, qui est la question dite des migrants, la question de l'émigration, la question de la venue chez nous, au risque et péril de la noyade en Méditerranée, de la traversée de la Libye ou du Sahara, de milliers et de milliers de gens pour qui, finalement, partir est une question de survie, ce qui rappelle à la fois les inégalités monstrueuses du monde contemporain, inégalités qui, à certains égards, sont sans précédent dans l'histoire, et d'autre part aussi le fait qu'il existe de petites régions protégées et qui sont tentées, en réalité, de refuser leur ouverture, leur accès à ces milliers de gens qui cherchent à survivre. Et là, en quelque sorte, nous avons un mouvement inverse, c'est-à-dire le méfiez-vous des Blancs, c'était méfiez-vous de l'intrusion coloniale du Blanc pour exploiter vos territoires, et là, ce serait plutôt méfiez-vous de quiconque n'est pas Blanc, parce qu'il veut venir chez vous.
C'est la crainte, aujourd'hui, qui est exprimée par certains pour vous, Alain Badiou. C'est cette peur, cette crainte qui est ressentie et exprimée par certains aujourd'hui. La peur de l'autre, la peur de l'étranger.
C'est la peur de l'autre et c'est une peur qui a une signification planétaire parce qu'elle est aussi le symbole subjectif, enfin la façon de ressentir que quelque chose dans le monde procède de différence et d'inégalité intolérable à ce point que des gens sont prêts à tout pour quitter leur pays et venir ici. Il faut tout de même voir que les morts en Méditerranée se comptent maintenant par milliers. Il y a là-dessus des témoignages, en particulier dans l'île de Lampedusa, etc., des témoignages y compris littéraires tout à fait stupéfiants concernant la violence de cette procédure. Et cette violence est liée en quelque sorte à la peur d'une invasion, voire même, comme on le dit à l'extrême droite, d'un grand remplacement des blancs par les colorés du monde entier.
Voilà, une inversion qui est en train de se jouer aujourd'hui, des représentations et des perceptions. Elles ont en commun d'être aussi clivantes l'une que l'autre. Vous les rapprochez. En quoi la question des gilets jaunes, dont on a parlé dans la première partie de l'émission avec l'écrivain romancier Grégoire Bouillet, est-elle pour vous, à proprement parler, l'inverse, là encore, de la question des migrants ?
Je pense que la question des migrants est typiquement une question moderne en réalité. C'est une question même, je dirais, du contemporain. Elle a commencé en réalité à prendre toute son extension dans les années 60. Elle s'est déployée pendant toute une époque. On est allé chercher les travailleurs immigrés pour en faire des ouvriers des grandes usines. Aujourd'hui, on se barricade contre leur venue. Et je pense que la protestation des Gilets jaunes... Par ailleurs, à certains égards, tout à fait légitime, parce que c'est vrai que toute une partie de la classe moyenne française est en voie de paupérisation. C'est vrai que des villes de province sont désertées. C'est vrai que le sentiment que le gouvernement ne les représente pas est d'une certaine façon appuyé sur des faits. Donc, il y a une protestation, mais cette protestation, me semble-t-il, est un appel au retour à un ordre ancien. C'est-à-dire un retour, au fond, aux Trente Glorieuses, disons. C'est-à-dire à l'époque où, dans les conséquences de la guerre mondiale, il y a eu en France une politique sociale importante, une politique redistributive importante, des services publics développés, etc., etc. Aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, en partie parce que les phénomènes économiques sont mondialisés. Et que c'est à échelle mondiale que se prennent les grandes décisions, finalement, des courants économiques. Et je pense donc autant le phénomène dit des migrants est un symbole du caractère mondial du monde moderne, autant, d'une certaine manière, la protestation des Gilets jaunes, qui est une protestation sympathique et légitime et populaire, en effet, me paraît, dans ses thèmes principaux et dans son développement même, marquée par la nostalgie d'un vieux monde, d'une France qui, en réalité, est en train de disparaître, à la fois parce qu'on n'est plus dans la même époque, évidemment, et aussi parce que la France a cessé d'être justement cette arrogante puissance coloniale qu'elle a été pendant deux siècles.
Et vous, le penseur marxiste, vous n'êtes pas du tout dans la nostalgie d'un vieux monde, au contraire. C'est pour ça que vous appelez aujourd'hui à repenser le communisme, à un nouveau communisme qui prendrait quelle forme ?
Oui, absolument. Je pense que plus que jamais, les repères les plus fondamentaux du communisme sont actifs et que simplement, il faut en retrouver, en réinventer la forme. Mmh. C'est évident que les expériences d'État communiste ont échoué. C'est-à-dire que tout ça s'est achevé en réalité entre les années 60 et les années 80. Et que si on parle de communisme, on doit parler de nouveau communisme obligatoirement et pas de la répétition. Nous ne sommes pas dans la possibilité d'une répétition de ce qui a eu lieu. Mais par ailleurs, il est quand même absolument vrai que des thèmes essentiels comme le primat écrasant de l'économie sur toute autre détermination politique, le caractère nécessairement internationaliste de toute protestation contre cela, le caractère clé de la répartition mondiale des figures du travail, etc., etc., que tout cela est beaucoup plus vrai aujourd'hui que du temps de Marx, à vrai dire. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on dit souvent que Marx s'est trompé. Il s'est trompé sur certains points, comme tout le monde, mais sur le cadre général de son entreprise, je pense qu'il serait satisfait de voir que internationalisme, mondialisation, croissance des inégalités, concentration du capital, qui sont des thèmes fondamentaux du marxisme, sont particulièrement vérifiés dans le monde contemporain.
Vous n'avez pas vu beaucoup de rouge dans ce mouvement des Gilets jaunes, Alain Badiou ? Le rouge n'était pas pour vous la couleur dominante de ce mouvement des Gilets jaunes ?
Non, je pense que vers la... Non pas la fin, puisque le mouvement n'est pas terminé, mais dans le développement du mouvement, on sait très bien qu'une partie du gauchisme traditionnel de la France s'est agglomérée à certaines manifestations des Gilets jaunes, en particulier aux assemblées qui ont eu lieu à Commercy, etc. On sait bien que par conséquent, certains thèmes traditionnels de l'extrême gauche ont pu se faire entendre aussi dans le contexte général des Gilets jaunes. Ceci dit, je crois que les Gilets jaunes eux-mêmes n'étaient pas vraiment porteurs de notions de ce genre. Elles ont été importées du dehors. Et je pense, encore une fois, que la protestation des Gilets jaunes, on verra ce qu'elle va devenir dans son développement, parce que les mouvements, quand ils se développent, changent aussi. Ils changent, y compris de thématiques et de visées. Mais dans leur naissance, dans leur origine, c'est la classique contradiction qui a déjà trouvé certaines formes en France avant, entre une partie de la classe moyenne précaire, paupérisée, voire même à ses propres yeux prolétarisée, et la bourgeoisie dominante. Et que c'est pour ça d'ailleurs que la protestation est principalement, peut-on dire, dégagiste, c'est-à-dire qu'il s'en aille. Et elle est très personnalisée par la figure symbolique de Macron. Et ce dégagisme est tout à fait explicable, mais en même temps, comme toujours, ma conviction est que tout mouvement qui n'a de mot d'ordre que négatif est un mouvement affaibli pour autant. Or, les Gilets jaunes, ils n'ont ni affirmation constituée, ni organisation solide. Et dans ces conditions, le mouvement peut durer, il a une certaine importance, mais il n'est pas suffisant pour changer les données fondamentales de la situation.
Leur proclamation, leur désorganisation périlleuse, leur forme d'action, leur absence assumée de pensée générale et de vision stratégique, tout cela proscrit l'inventivité politique. Voilà ce que vous écriviez récemment dans un article publié en ligne sur L'Autre Quotidien et qui peut ou prou redit les mêmes choses qui sont dans ce court essai. Méfiez-vous des blancs habitants du rivage qui paraît chez Fayard, Alain Bayou, l'inventivité politique. Qui pourrait leur en apporter aujourd'hui? Quel serait le débouché que vous imagineriez, vous, ou que vous souhaiteriez pour ce mouvement?
Je pense que pour que le mouvement puisse, à un moment quelconque, être alimenté dans la perspective d'une inventivité politique réelle, et non pas en réalité dominé par une nostalgie de la bonne époque, de l'après-guerre, il faudrait deux conditions, je pense. Il faudrait que ce mouvement réalise une union véritable entre, en effet, le secteur social représenté massivement par les Gilets jaunes et toute une partie de ce qui constitue en réalité le prolétariat moderne. C'est-à-dire les habitants des cités, les ouvriers des grandes entreprises, les ouvriers du bâtiment, et justement tous ces gens qui terrorisent les Blancs en abordant à leur rivage. Voilà. Il faudrait qu'il y ait cette union qui a toujours été constitutive des véritables mouvements politiques dans ce pays, c'est-à-dire une sorte d'alliance, qui n'est pas forcément une fusion, mais d'alliance entre certains secteurs de la classe moyenne et une partie significative des prolétaires. Je les appelle des prolétaires nomades, parce que ce sont des prolétaires qui viennent d'ailleurs, qui traversent le pays, qui ne savent pas où ils vont, etc. Alors ça, ce serait la condition première. Et la deuxième condition serait qu'existe un noyau, disons les choses, un noyau d'intellectuels qui sont porteurs, malgré tout, du travail intellectuel qui doit accompagner les mouvements. Un exemple historique tout à fait typique, c'est justement ce qui s'est passé au moment où Marx a écrit le manifeste du Parti communiste. On était dans les révolutions de 48, qui ont toutes été écrasées finalement, où partout s'est instauré un ordre autoritaire, en France, Napoléon III, et ailleurs, des réactions aristocratiques, parce que justement, cette fusion était problématique, et lorsque Marx écrit un manifeste du Parti communiste, en réalité, il n'y a ni communiste ni parti. Et il se propose pour assumer des fonctions de cet ordre. Donc finalement, il faudrait un triplet composé, en effet, d'une partie des masses populaires représentées par les Gilets jaunes, du prolétariat, en particulier des banlieues des grandes métropoles et des métropoles elles-mêmes, et puis d'un noyau d'intellectuels qui se rallierait à tout ça et au nom d'un certain nombre de principes politiques et d'orientations politiques.
Vous avez évoqué ce prolétariat nomade, Alain Bayou. Vous écrivez tout au long de cet essai les dits migrants. Sans que c'est un mot qui vous dérange, qui vous gêne un peu, le mot de migrant, les dits migrants. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce terme?
Et je pense que lorsqu'on dit les migrants, on est trop au bord encore de ce qu'on appelle les problèmes de l'immigration, c'est-à-dire de la constitution de ces gens en problème. Or, ces gens, effectivement, troublent notre citoyenneté générale, mais ils ne sont pas, eux, constitutifs d'un problème. Leur être n'est pas d'être migrant, en réalité. Ils sont migrants Il préférait ne pas l'être, à vrai dire. Il préférait ne pas l'être. Le statut de migrant, qui veut dire aussi le statut potentiel de noyé, d'expulsé, d'interné et autres traitements extrêmement sauvages, le devenir de migrant n'est pas du tout leur vœu et leur désir. Leur désir, c'est de trouver du travail là où il y en a. Voilà. Et le fait que ça leur soit interdit, le fait que du coup il va falloir qu'ils travaillent sans papier, que par conséquent ils ne seront jamais sûrs d'être payés, va continuer une forme de misère ou d'infériorité à l'intérieur de leur nomadisme dans nos pays qui se représentent eux-mêmes comme des pays prospères. C'est pour ça que ils migrent, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils migrent qu'il faut les définir comme des migrants. Voilà ce que je pense. Et c'est pour ça que je préfère prolétariat nomade, qui est un peu scientifique comme ça, mais qui désigne bien leur statut. Prolétaire veut dire qui est soumis à la recherche du travail, et nomade veut dire qui ne peut le faire qu'en effet en migrant.
Scientifique, mais aussi politique et poétique. D'ailleurs, ce prolétaire nomade est une figure poétique pour vous aussi, Alain Badiou. Vous citez Patrick Chamoiseau dans cet ouvrage. Dans Frères migrants paru au Seuil, il questionne les mots, il questionne aussi le rôle de la poésie qui ne peut pas agir, dit-il, sur la barbarie des frontières. Pour lui, elle ne sert qu'à esquisser en nous la voix d'un autre imaginaire, à travers la langue, l'imaginaire. Écoutez Patrick Chamoiseau.
La notion de migrant ne correspond à aucune catégorie juridique utilisée d'habitude, hein, demandeur d'asile, réfugié, etc. Donc du coup, quand on est migrant, on tombe dans un no man's land absolument effrayant qui justifie presque la barbarie actuelle. Moi, je fais une distinction entre l'inhumain et le déshumain. L'inhumain fait partie de l'humain. Et c'est vrai que cet effort que nous avons pour définir ce que peut être, ce que l'humain peut avoir de plus noble, de plus sensible, de plus précieux, de plus extraordinaire, lutte contre le déshumain qui fait partie de la nature humaine. En revanche, le déshumain, c'est une pratique organisée de l'inhumain. Et là, nous sommes véritablement face au problème. Problèmes migratoires pour lesquels les États libéraux n'ont pas de solution apparente, il y a une mise en place d'un déshumain, c'est-à-dire une organisation systémique qui fait en sorte que des gens sont en train de mourir, on les laisse mourir, on les refoule et on les cantonne dans des zones de non-droit qui sont absolument effrayantes. Et ce déshumain-là mérite l'indignation.
Déshumanisation, déshumain, nous dit Patrick Chamoiseau, et un peu à votre manière, Alain Badiou, que derrière ce terme migrant, il ne fait référence à aucune catégorie ni juridique, ni même littéraire, et encore moins politique. Il faut repolitiser pour vous cette question,
je
et du coup la repenser.
Oui, d'ailleurs, comme vous le savez, dans ce petit livre, j'ai beaucoup utilisé la référence poétique, parce que je pense que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on verrait qu'à certains moments, le dire poétique précède en réalité le dire politique. Et il y a quelque chose dans la poésie de divinatoire, malgré tout, dans la grande poésie, dans la poésie forte. Et c'est pour ça que, tout en remarquant que Chamoiseau reste tout près de la catégorie de migrant, ou même la reprend, alors que politiquement je la critique, je lui rends tout à fait hommage parce que je vois bien qu'il saisit poétiquement que, à travers cette figure du migrant, se donne en réalité une donnée essentielle de la condition humaine contemporaine, et en particulier, au fond, un élément de distinction subjective entre ce qui est humain et ce qui est inhumain, ou ce qui est même l'organisation d'une déshumanisation, et que ceci me paraît un geste tout à fait admirable.
Alors comment repenser cette question, quelle voie choisir aussi pour l'aborder en humaniste, mais aussi avec cette question politique qui permette de réagir face à cette impensée? Vous citez une autre grande voix, et je vous la fais écouter, ce sera la dernière, celle de Jacques Derrida sur la question de l'hospitalité.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours justement impossible. J'entends par là non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'impossible, qui est néanmoins désiré comme tel, Il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple, accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom, à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
Jacques Derrida, Alain Badiou, vous revenez sur les voies possibles et vous estimez que la première, celle que vous nommez l'orientation éthique, dont le concept fondamental est l'autre, l'autre comme être humain, cette idée d'altérité, n'est pas forcément la bonne voie à suivre, que vous lui préférez une seconde, qui est l'orientation communiste, avec ce concept fondamental que vous rappeliez à l'instant, celle du prolétariat, des prolétaires et de cette organisation qui se ferait à l'échelle mondiale et au niveau transnational. Quelles sont les limites de l'approche de Jacques Derrida pour vous aujourd'hui ?
Je pense que l'approche de Jacques Derrida, avec laquelle on ne peut avoir qu'une première sympathie, évidemment, puisqu'elle est, elle reprend l'idée que quelque chose comme un impératif absolu devrait, si c'était possible, gouverner la question de l'accueil de l'autre. Je pense qu'elle a deux inconvénients. D'abord, que d'une certaine façon, la question du flux migratoire n'est pas uniquement définissable en termes d'accès ou d'arrivée. C'est quand même une limitation. Bien sûr, tout le monde y est sensible parce que cette question du refus de l'accueil, cette question de ceux qui se noient dans la mer parce qu'on ne les laisse accoster nulle part, etc., est évidemment très, très sensiblement ou très visiblement, en un certain sens, criminel, quoi. C'est-à-dire, là, il s'agit de la mort de l'autre, en vérité. Donc c'est un point nécessaire. Mais on peut objecter aussi que l'absolutisation de la chose est quand même périlleuse. Il n'est quand même pas vrai qu'il soit souhaitable d'accueillir quiconque se présente. Quiconque se présente peut être un envahisseur, par exemple. Peut être un conquérant. Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage. Hein. Là, l'impératif n'est pas d'accueillir ces braves Blancs qui, au bout de quelques mois, vont vous parler d'obéissance et d'esclavage, évidemment. Ou les conquérants de territoires coloniaux au profit des métropoles impérialistes. Donc déjà, cette limitation sur l'accueil et le caractère inconditionnel de l'accueil fait que, à mon avis, la prescription éthique elle-même est contestable. Et d'autre part, je pense que l'autre limitation, c'est que la dialectique entre ce qu'il appelle l'impératif absolu, que le texte que on vient d'entendre rappelle, et le fait qu'il est impossible, ouvre à une question tout à fait essentielle, mais tout à fait difficile, et sur laquelle, en fin de compte, il ne dit pas grand-chose, qui est l'articulation à la fin des fins entre impossible et possible. C'est-à-dire que la politique, à mon avis, le nouveau communisme, c'est toujours quelque chose qui change la frontière entre le possible et l'impossible. Ce n'est pas quelque chose qui assume telle quelle l'impossibilité, parce qu'au fond, le rapport entre possible et impossible, il est dicté par la puissance dominante. Je dirais même que c'est une définition de la puissance dominante. Elle est ce qui définit ce qui est possible et ce qui est impossible. À qu'à voir, les politiciens ne cessent de nous rappeler que telle ou telle chose est impossible. Voilà. Mais c'est eux qui, d'une certaine façon, armaturent et donnent sa solidité à cette opposition. Alors qu'évidemment, ce que j'appelle le nouveau communisme, qu'on peut appeler autrement si on veut, c'est précisément quelque chose qui se propose de déplacer la frontière entre le possible et l'impossible. Alors évidemment, ça va apparaître, du point de vue de l'ordre dominant, comme faire quelque chose qui est impossible. Mais dans la norme nouvelle qui est proposée, c'est un déplacement qui fait que cet impossible doit être traité comme s'il était possible. Voilà.
Et vous montrez aussi, Alain Badiou, comment les migrants d'aujourd'hui, ou les dits migrants, sont aussi les ouvriers d'hier, hein, perçus comme une classe dangereuse, extérieure à la société, et le rejet qu'il peut y avoir par rapport à cela. Vous écrivez aussi, nous devons aujourd'hui insister sur le fait que la scène de la vieille France relève du passé, et tenir ferme sur la conviction qu'aujourd'hui, tout ce qui importe vraiment se tient dans ce cycle. Le point de départ de notre pensée doit être le monde entier. Car il est encore plus vrai aujourd'hui, il doit être pour nous plus vrai aujourd'hui que du temps de Marx, l'aphorisme selon lequel les prolétaires n'ont pas de patrie, ce qui signifie que notre patrie est le monde et que nos compatriotes composent l'humanité laborieuse dans sa totale diversité. Alain Badiou, vous avez ouvert avec une inversion des regards sur la question des gilets jaunes. Pour reprendre presque ma question de départ, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'international pourrait aussi sauver le mouvement des gilets jaunes?
En tout cas, tant que la situation internationale n'est pas prise en compte, il est très difficile de figurer ce qu'est une issue effective de ce mouvement. Et même de se dire avec précision ce qu'il demande, ce qu'il veut, dans le registre justement du possible et de l'impossible, dans sa référence aux paramètres du possible et de l'impossible. Et cela parce que toute une série des choses à propos desquelles il dépose des plaintes légitimes ont leur source en réalité dans le fait que l'économie capitaliste moderne a pour scène, pour espace propre, le monde lui-même. Et que si on rétrécit la scène à l'échelle nationale, on ne trouvera pas de véritable issue. C'est pourquoi je soutiens moi-même, contre l'avis de beaucoup de mes voisins gauchisants, que ce n'est pas du tout en vitupérant l'Europe qu'on va construire une scène meilleure. Tout montre, partout dans le monde, que si on rétrécit la scène à l'espace national, on va voir au contraire triompher des nationalistes, évidemment. C'est-à-dire, en réalité, des débris de l'extrême droite traditionnelle. Et je pense au contraire que la scène dans laquelle on doit poser les problèmes, les discuter et proposer des nouvelles orientations, la scène aujourd'hui est en effet le monde entier.
Oui, même l'Europe est presque une échelle
l'Europe
trop petite.
L'Europe est elle-même trop étroite, ouais, on le voit bien tous les jours.
C'est ça. Merci beaucoup à vous Alain Badiou d'avoir été avec nous. Méfiez-vous des blancs habitants du rivage. Votre texte vient de paraître dans la collection Ouverture chez Fayard. Merci.
Merci à vous.
France Culture, il est 13h23.
La Grande Table, le rendez-vous de la médiatrice.
Et comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice, donc Emmanuel Davier, bonjour.
Bonjour Olivia.
Avec aujourd'hui le directeur de la rédaction de France Culture, Frédéric Barrère.
Bonjour Olivia.
Bonjour.
Je commence avec le message d'Albert, très fidèle auditeur de France Culture. Il écrit régulièrement au service de la médiation, il se reconnaîtra. Je vous lis son message envoyé avant-hier matin. En écoutant les journaux de la matinale, j'ai été assez étonné. C'est par la BBC que j'ai appris qu'un des pompiers a été gravement blessé lors de leur action pour maîtriser l'incendie de Notre-Dame, ou même du fait que le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a été le premier à manifester sa sympathie et solidarité aux membres du clergé responsable de la cathédrale parisienne. Il semble que la rédaction de France Culture aurait dû indiquer de quelle manière les autorités des autres religions se sont manifestées. Que répondez-vous à cet auditeur, Frédéric Barrère?
Je constate qu'il s'agit d'un auditeur très averti, très informé, qui zappe de la BBC à France Culture. Je m'en réjouis. Alors, il s'agit d'informations dont nous avons bien sûr parlé, et nous avons notamment donné le premier témoignage, hein, c'est celui de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, qui le soir même de l'incendie remercie le grand rabbin de France, Haïm Korsia, pour son témoignage de sympathie et de solidarité. On a relayé tout cela, mais c'est vrai que l'émotion a ébranlé bien au-delà de la communauté chrétienne. La solidarité musulmane a aussi été relayée sur l'antenne, mais pour tout vous dire, les reporters de France Culture, nos deux reporters qui sont allés sur place dès le soir, ont interrogé des dizaines de personnes présentes sur les lieux. Et franchement, peu importe la religion, il s'agissait de Parisiens, de touristes, de personnes émues et blessées qui souffraient en voyant la cathédrale en feu, la flèche qui bascule et qui s'écroule. Et franchement, à ce moment-là, la religion est bien loin de l'émotion et de la communion de toutes ces personnes. Alors dans un second temps, on a parlé de cette solidarité, on a même parlé d'Ubisoft. Ce fameux studio qui a donné gratuitement à télécharger son jeu Assassin's Creed, tourné à Paris, avec en décor Paris et Notre-Dame. On a parlé de tous les élans de solidarité.
On poursuit avec un message sur le Brexit. Voilà 3 années que les médias dont vous faites partie nous bassinent matin, midi et soir avec ce sujet à rebondissement. Comment est-ce possible de nous saouler à un tel point avec ce feuilleton à la Dallas et de vous discréditer en relayant ce sujet qui n'en finit plus? Allez-vous continuer jusqu'au mois d'octobre prochain et puis encore 6 mois plus tard pour cause de nouveaux reports? Franchement, nous n'en avons rien à faire de ce Brexit. Il est à des années-lumière de nos préoccupations quotidiennes. Alors s'il vous plaît, demandez à vos rédacteurs un peu plus de créativité et laissons nos voisins anglais avec leurs problèmes. Nous en avons déjà assez avec les nôtres. Merci de vous remettre en question sur le sujet. Frédéric Barrère, estimez-vous que la rédaction de France Culture en a fait trop sur le Brexit ?
Allons bon, le Brexit n'empêche pas de parler des autres sujets. Je crois pas qu'on en ait trop parlé, le sentiment de saturation, je l'entends, hein. Mais peut-être que ça vient d'une écoute plus globale, plus générale de toute la presse. Mais sur culture, le sujet n'a pas éclipsé les autres. Alors on en a parlé. Pourquoi on en a parlé ? Bah parce que l'Europe, c'est un enjeu important. Beaucoup de questions se posent autour de la construction européenne, de ses États membres, de ses frontières, du modèle qu'on veut, nous, Européens. Puis le Royaume-Uni, c'est pas rien, le Royaume-Uni. C'est une grande puissance qui veut divorcer. Là où je serais en désaccord avec l'auditeur, c'est que cela fait partie de nos préoccupations quotidiennes, je crois. En revanche, là où je le rejoins, c'est plutôt sur le côté feuilleton. J'irais plutôt série que feuilleton et plutôt Game of Thrones que Dallas, avec ce côté famille qui se déchire dans la violence des échanges au Royaume-Uni, à Bruxelles, et qui suscite une incompréhension de ce qui arrive. Mais rendez-vous compte, je sais d'ailleurs pas si c'est la meilleure publicité pour l'Europe. Les Britanniques ont voté il y a 3 ans pour quitter l'Union européenne, et aujourd'hui, ils vont voter pour les élections européennes. Il y a même des sondages parus ce matin pour savoir quel parti va l'emporter le 23 mai. C'est quand même tout de même un peu étrange. Alors malheureusement, oui, il y aura d'autres saisons Brexit dans cette série Brexit que la presse anglaise, et ça j'adore, avec beaucoup d'humour, à résumer en parlant d'un Brexit atteint par le syndrome Hotel California, ce tube planétaire, ce drone, ce slow extraordinaire du groupe Eagles. Ça, c'est les Anglais. Un hôtel d'où on peut partir à tout moment, mais qu'on ne quitte vraiment jamais. Donc, la saison prochaine est en préparation.
Alors, Badiou, Frédéric, vous suivez ce feuilleton, juste. Vous avez l'air très intéressé par ce feuilleton du Brexit.
Bien, je pense qu'il est, il est symbolique quand même de la situation européenne dans son ensemble aujourd'hui, parce que c'est partout dans l'Europe que surgissent des tentations anti-européennes en réalité. Mais ces tentations européennes, elles recouvrent quoi ? Elles recouvrent une résurgence des nationalismes. Et la résurgence des nationalismes ne fera pas basculer le pays vers sa gauche.
Emmanuel David,
alors,
dernière
Frédéric
question pour Barrère, Frédéric
Barrère. Vous avez cité Hotel California. Sur quelle musique ferez-vous danser cette auditrice qui vous fait un compliment à vous et à France Culture ? Je lis son message. On ne le dira jamais assez, mais bravo à France Culture pour la couverture systématique de toute l'actualité internationale. Les journaux sont passionnants. Comment définissez-vous la ligne éditoriale de France Culture en matière d'information internationale ?
Non, elle ne dit pas les journaux sont passionnants. J'ai lu le mail, Emmanuel.
Elle
dit les journaux sont passionnants.
Oui, alors je ne l'ai pas joué comme une comédienne.
C'est écrit comme cela.
C'est vrai.
Je dirais Cocoriculture. Aujourd'hui, on va... Alors, en un mot, la ligne de conduite, la ligne éditoriale de culture, effectivement, c'est l'international, mais c'est aussi le Brexit, mais c'est aussi la politique, l'économie. Mais aujourd'hui, je remercie beaucoup cette auditrice, mais on va savourer la journée avec Olivia, avec toutes les équipes, toute la rédaction et toutes les émissions de France Culture, puisque on a battu des records historique, c'est le travail de tout le monde, c'est Godard qu'on a reçu en exclusivité à la grande table, c'est les journaux avec l'international.
Donc vous la faites danser sur
l'international.
We are the champions.
Okay. Voilà. Voilà,
merci Frédéric Barrère.
Record historique, bravo et un grand merci à vous auditeurs, c'est votre radio et merci de nous écouter.
Merci à tous les deux, merci Emmanuel Davier, merci beaucoup Frédéric Barrère. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. C'est le jour où il faut rappeler que nous sommes un collectif. Merci à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées. Merci beaucoup à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli pour leur aide très précieuse à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Milena Elig. Demain, ce sera probablement Marie Placet, ou hier, puisqu'elles sont deux. Et merci à Jean-Frédéric qui était à la technique aujourd'hui. Très bel après-midi sur France Culture.